Chapitre 2. 1. La correspondance de Percy Franklin avec le cardinal protecteur d'Angleterre occupait le prêtre directement au moins pendant 2 heures chaque jour et indirectement toute la journée. Depuis les 8 dernières années, le Saint-Siège avait, une fois de plus, modifié sa manière d'agir pour l'accommoder aux besoins du temps. Désormais, chaque province importante du monde possédait non seulement un prélat métropolitain chargé de l'administrer, mais aussi un représentant à Rome ayant à se tenir en rapport avec le pape d'un côté et, de l'autre, avec les fidèles qu'il représentait. Le cardinal protecteur d'Angleterre au Vatican était un abbé Martin de l'ordre de Saint-Benoît. Et Percy, nouvellement revenu de Rome, avait pour office, ainsi qu'une 10aine d'autres prêtres et laïcs, avec lesquels il lui était interdit de s'entendre pour le travail commun, d'écrire tous les jours un long mémoire sur toutes les nouvelles qui parvenaient à sa connaissance. Aussi était-ce une vie singulièrement active et remplie, celle que menait à présent le jeune prêtre. On lui avait assigné 2 chambres dans la maison de l'archevêque à Westminster, et il se trouvait attaché au clergé de la cathédrale, mais avec une liberté individuelle très grande. Il se levait très tôt et, pendant 1 heure, se livrait à une méditation, après laquelle il disait sa messe. Puis, ayant expédié son déjeuner et fait encore une prière, il s'asseyait à sa table de travail pour arrêter le plan et réunir les matériaux de sa lettre. À 10 heures, il était prêt à recevoir des visites. Et, jusqu'à midi, d'ordinaire, il s'occupait à causer, soit avec ceux qui venaient le voir pour leurs propres affaires, ou avec les quelques prêtres ou reporters laïcs qui avaient mission de recueillir pour lui des extraits de journaux, en les accompagnant de leurs propres commentaires. Il déjeunait ensuite avec les autres prêtres de l'archevêché et, dans l'après-midi, aller voir les personnes qu'il avait à consulter. Vers 16 heures, enfin, après avoir récité le reste de son office et fait une station au Saint-Sacrement, il se mettait à rédiger sa lettre, ce qui lui demandait toujours beaucoup de soins et de réflexion. En outre, 2 fois par semaine, il était tenu d'assister aux vêpres dans l'après-midi, et c'était lui encore qui, habituellement, chantait la grand-messe du samedi. Un jour, environ 1 semaine après sa visite à Brighton, il était en train de terminer sa lettre lorsque son domestique vint lui dire que le père Francis l'attendait en bas. « Je descends tout de suite, » répondit Percy sans relever la tête. Il écrivit les dernières lignes, puis, cela fait, se mit en devoir de relire toute sa lettre rédigée en latin et dont voici par exemple la première page. « Westminster, ce 14 mai. Éminence. Depuis hier, j'ai eu quelques renseignements nouveaux. Il paraît désormais certain que le projet de loi consacrant l'espéranto comme langue d'État sera voté en juin. Cette loi, comme je l'ai déjà noté, sera une dernière pierre du mur qui va rattacher l'Angleterre au reste de l'Europe. On s'attend d'autre part à l'entrée d'un assez grand nombre de juifs dans la franc-maçonnerie. Ici encore, c'est le culte de l'humanité qui opère. Ce matin même, j'ai entendu le rabbin Siméon parler à cet effet dans la cité, et j'ai été frappé des applaudissements unanimes qu'il a recueillis. De toutes parts grandit l'espérance qu'un homme va bientôt se trouver pour diriger le mouvement communiste dans l'Europe entière, et unir plus étroitement les forces du parti. Un article curieux du Nouveau Peuple, que je vous envoie 6 juin, déclare que la venue d'un tel homme est inévitable, étant donné la situation présente de la cause. Car cette cause a eu des prophètes et des précurseurs pendant plus d'un siècle, et leur disparition à l'heure présente doit certainement être le signe de l'avènement d'un homme supérieur à eux. N'est-il pas curieux de voir comme ces idées nouvelles coïncident, du moins par leur surface, avec les idées du monde juif d'il y a 20 siècles? J'ai appris aujourd'hui l'abjuration d'une très vieille famille catholique, les Wargrave de Norfolk, ainsi que celle de leur chapelain Micklem, qui semble avoir, depuis quelque temps déjà, activement travaillé à préparer ce reniement de ses maîtres. Tous les journaux annoncent le fait avec satisfaction, mais simplement à cause du rang exceptionnel des Wargrave. Car, hélas, de telles abjurations sont désormais si fréquentes que d'ordinaire on ne songe même plus à les remarquer. Ici, je constate une grande inquiétude parmi les laïcs. 7 prêtres du diocèse de Westminster nous ont quittés au cours des 3 derniers mois. Mais d'autre part, j'ai le plaisir de pouvoir annoncer à votre éminence que l'archevêque a reçu dans la communion catholique ce matin l'ex-évêque anglican de Carlisle, avec 5 membres de son clergé. Percy remit la feuille sur la table, réunit la dizaine d'autres feuilles qui contenaient ses extraits et des coupures de journaux, glissa le tout dans une enveloppe imprimée. Puis il prit sa barrette et se dirigea vers l'ascenseur. Dès l'instant où il pénétra dans le petit salon, il comprit que la crise redoutée avait eu lieu. Le père Francis paraissait fatigué et souffrant, mais il y avait, dans l'expression de ses yeux et de sa bouche, quelque chose de dur qui décelait une résolution désormais inébranlable. Il se releva pour saluer son ancien ami. « Mon père, dit-il, je suis venu vous dire adieu. Il m'est impossible de rester plus longtemps dans cet état. » Percy fit de son mieux pour ne montrer aucune émotion. D'un petit signe, il invita le père Francis à s'asseoir, puis il s'assit lui-même en face de lui. « C'est la fin de tout, reprit le visiteur, d'une voix qu'il tâchait à rendre ferme et assurée. Je ne crois plus à rien. Mais, au reste, il y a déjà un an que je ne crois plus à rien. » « Vous voulez dire que vous n'éprouvez plus rien ? » rectifia Percy. « Oh non, ce n'est pas seulement cela, poursuivit l'autre. Je vous dis qu'il ne me reste plus rien. Je ne puis plus même discuter désormais. Je suis simplement venu vous dire adieu. » Percy n'avait rien à répondre. Depuis plus de 8 mois, il avait travaillé à persuader son ancien camarade et ami, depuis le premier moment où le père Francis lui avait dit que sa foi s'en allait. Il se rendait bien compte de la lutte cruelle qui s'était livrée dans cette âme malade. Et, de tout son cœur, il plaignait la pauvre créature qu'il avait vue irrésistiblement entraînée dans le tourbillon triomphant de l'humanité nouvelle. Il songeait que, en vérité, les faits extérieurs étaient étrangement forts contre la vieille foi à l'heure présente, et que cette foi, sauf pour celui qui savait profondément que la volonté et la grâce sont tout et que l'émotion pure n'est rien, que cette foi se trouvait un peu dans la situation d'un enfant qui s'aventure à jouer au milieu de l'immense machinerie d'une usine en mouvement. Percy se demandait même jusqu'à quel point il avait le droit de blâmer la conduite du père Francis, encore que sa conscience lui affirmât qu'il y avait, dans cette conduite, malgré tout, un élément blâmable, et que, notamment, son ami, de tout temps, avait accordé trop de place au cérémonial dans sa religion, tandis qu'il n'avait jamais eu le sentiment ni le goût profond de la prière. De telle sorte qu'il prit bien soin, en tout cas, de ne rien laisser voir d'une compassion qui se reprochait, tout en ne pouvant pas s'empêcher de l'éprouver douloureusement. Naturellement, reprit le père Francis d'un ton vif, vous continuez à penser que tout cela est de ma faute. Mon cher père, répondit Percy, immobile sur sa chaise, je sais que cela est de votre faute. Écoutez-moi. Vous dites que le christianisme est absurde et impossible. Or, vous n'ignorez point qu'il ne peut pas être cela. Il peut être faux, malgré ma certitude foncière de sa vérité absolue. Mais il ne peut pas être absurde, étant donné que, aujourd'hui encore, des hommes instruits et vertueux persistent à y croire. Dire qu'il est absurde, c'est simplement se laisser aveugler par l'orgueil. C'est écarter tous les croyants chrétiens qui croient au christianisme, non seulement comme se trompant, mais comme n'ayant point d'intelligence. Sois donc, interrompit Francis, mettez alors que je crois seulement que le christianisme est faux. Je retire l'autre chose. Mais non, vous ne la retirez pas, reprit Percy sans se troubler. Vous vous obstinez à croire que le christianisme est absurde. Vous me l'avez dit 20 fois. Eh bien, je vous le répète, c'est là de l'orgueil, et qui suffit à tout expliquer. Dans ce genre de crise, l'attitude morale importe seule. Peut-être cependant y a-t-il aussi d'autres motifs. Le père Francis sursauta. « Oh, la vieille histoire !» dit-il aigrement. « Si vous me donnez votre parole d'honneur qu'il n'y a point de femme en jeu dans l'affaire, je vous croirai. Mais, en vérité, comme vous le dites, c'est une vieille histoire. » Ces vives paroles furent suivies d'un long moment de silence. Percy sentait maintenant que tout effort était inutile. Chaque jour, depuis 8 mois, il avait parlé à son ami de cette vie intérieure où nous découvrons que les vérités sont vraies, et où nous trouvons la garantie de nos actes de foi. Chaque jour, il avait recommandé la prière et l'humilité. Mais le père Francis lui avait invariablement répondu que c'était là conseiller une sorte d'autosuggestion. Évidemment, le cas était désespéré, et le jeune prêtre avait hâte que cette dernière entrevue prît fin. Le visiteur sembla deviner sa pensée. « Vous en avez assez de moi, dit-il, je m'en vais. » « Je n'ai nullement assez de vous, mon cher père, » répondit Percy avec simplicité. « Je vous plains seulement et de toute mon âme. Car moi, voyez-vous, moi qui vous aime et qui souhaiterais votre bonheur, je sais profondément que tout ce que vous reniez est vrai. » Son ami le considéra longuement. « Et moi, s'écria-t-il, je sais que cela n'est pas vrai. Certes, je donnerais beaucoup pour pouvoir y croire encore. Je sens que jamais plus je ne serai heureux. Mais c'est bien fini. » Percy soupira. Combien de fois il avait dit à cet homme que le cœur était un don divin non moins précieux que l'esprit, et que négliger l'un de ces deux éléments dans la recherche de Dieu, c'était courir au-devant de la ruine. Mais le père Francis n'avait pas voulu voir en quoi ces paroles s'appliquaient à lui. Il avait répondu par les vieux arguments de la psychologie, déclarant que les suggestions de l'éducation suffisaient à rendre compte de tout. « Et à présent, je suppose que vous allez rompre tout rapport avec moi, » reprit-il. « C'est vous qui vous séparez de moi, » dit Percy, « et vous savez bien qu'il m'est impossible de vous suivre. »« Oui, mais ne pouvons-nous pas rester amis ?» Une chaleur soudaine afflua au cœur du prêtre resté fidèle. « Amis, » dit-il, « hélas, mon pauvre Jean, quelle espèce d'amitié est désormais possible entre nous ?» Le visiteur se releva brusquement. « Soit, je m'en vais. » Et il fit un pas vers la porte. « Jean, » s'écria Percy d'une voix tremblante, « est-ce ainsi que vous me quittez ? Et faut-il vraiment que nous nous séparions ?» Il tendait sa main ouverte à son ancien ami. Celui-ci le regarda un moment, ses lèvres frémirent, et puis, s'étant retourné vers la porte, il s'enfuit, sans ajouter un seul mot. 2. Percy se tint debout, immobile, jusqu'au moment où il entendit la sonnerie automatique du dehors, annonçant que le père Francis venait de quitter l'archevêché. Alors le prêtre sortit du salon à son tour et pénétra dans le long couloir qui conduisait à la cathédrale. En passant par la sacristie, il entendit de loin, au fond de l'église, le murmure de l'orgue, accompagnant le chant des vêpres dans le chœur. Le jeune prêtre s'avança dans le transept et s'agenouilla. Le soir approchait. Le grand temple sombre n'était éclairé que par des reflets éparses de la lumière du dehors, pénétrant à travers de somptueux vitraux récemment donnés par un lord converti. Devant Percy s'étendait le chœur, avec une double rangée de chanoines en supplis blanc et en chape de fourrure. Au milieu, sous un vaste baldaquin, brûlaient les 6 lumières qui avaient brûlé là chaque jour depuis plus d'un siècle. Et plus loin encore, c'étaient les hautes lignes de l'abside, avec la voûte profonde où l'on voyait le Christ régner dans sa majesté. Percy laissa errer ses yeux autour de lui pendant quelques instants avant de commencer sa prière. Il admirait la beauté du lieu, écoutait les chœurs magnifiques, les appels de l'orgue et la fine voix nuancée du prêtre. À gauche brillait l'éclat réfracté des lampes allumées devant le sacrement. À droite, une douzaine de cierges jetaient une lumière vacillante au pied de la gigantesque croix, supportant ce pauvre divin qui invitait tous ceux qui le regardaient à partager son supplice. Puis le prêtre se cacha le visage dans les mains, soupira et se mit à prier. Il commença, comme il faisait toujours, par un acte délibéré de renoncement au monde sensible. Il s'efforça de descendre jusqu'au fond de soi-même, et bientôt l'appel de l'orgue, le bruit des pas, la dureté du banc de bois sous ses genoux, tout cela disparut pour lui, et il eut l'impression de n'être rien qu'un cœur qui battait et un esprit qui enfantait d'incessantes images. Puis il fit une nouvelle descente. Il renonça à tout ce qu'il était et possédait, et eut conscience que son corps même s'évanouissait, tandis que son esprit et son cœur, dominés par la sublime présence qui se dressait devant eux, se soumettaient docilement à la volonté de leur maître. De nouveau il soupira, en sentant cette présence se rapprocher de lui. Il répéta machinalement quelques paroles et tomba enfin dans cette paix qui suit le suprême renoncement à la pensée personnelle. Ainsi il resta assez longtemps. Très loin au-dessus de lui retentissait la musique merveilleuse, mais elle était désormais pour lui aussi indifférente que les bruits de la rue pour un homme qui dort. Il se trouvait maintenant en deçà du voile des choses, au-delà des barrières de la sensation et de la réflexion, dans ce lieu secret dont un effort obstiné lui avait appris le chemin, dans cette région singulière où les réalités véritables apparaissent avec une évidence directe, où les perceptions vont et viennent avec la rapidité de l'éclair, où l'Église et ses mystères sont vus du dedans, auréolés de gloire. Après quoi, il s'éveilla de nouveau à la conscience et commença une oraison intérieure. « Seigneur, me voici en face de vous. Je vous connais. Je sais qu'il n'y a rien d'autre que vous et moi. Et je remets tout entre vos mains, votre prêtre apostat, votre peuple, le monde et moi-même. » Il s'arrêta et concentra ses pensées jusqu'à ce que tout ce qu'il avait dans l'esprit s'étendît devant lui, comme une plaine au pied d'une montagne. « Moi-même, Seigneur, sans votre grâce, je me trouverai dans les ténèbres et dans le malheur. C'est vous seul qui me soutenez et me sauvez. Conservez et achevez votre ouvrage dans mon âme. Ne me laissez point défaillir pour une minute. Car si vous écartiez de moi votre main, aussitôt je tomberai au plus profond néant. » Les yeux de son âme allaient maintenant çà et là, du calvaire dans le ciel jusqu'aux agitations et aux soupirs terrestres. Il voyait le Christ mourir de désolation pendant que la terre tremblait et gémissait. Il voyait le Christ régner sur son trône en robe de lumière. Il le voyait résider, patient et silencieux, sous les espèces de son sacrement. Puis il attendit que le Christ lui parlât, et les paroles qu'il attendait lui vinrent si douces et délicates, rapides comme des ombres, que sa volonté s'épuisait dans l'effort de les saisir, de les fixer et d'y répondre. Il voyait le corps mystique dans son agonie, étendu sur le monde comme sur une croix, et muet à force de douleur. Et le sang vivant coulait, goutte par goutte, de sa tête, de ses mains et de ses pieds. Au-dessous, le monde était rassemblé, plein de raillerie et de belle humeur. Il a sauvé les autres, mais lui-même il ne peut pas se sauver. Qu'il descende seulement de la croix et nous croirons en lui. Au loin, derrière des buissons et dans des creux du sol, les rares amis de Jésus regardaient et sanglotaient. Marie elle-même se taisait, percée de 7 glaives. Et le disciple qu'il avait aimé ne trouvait point de paroles de consolation. Et il sentait aussi qu'aucun mot ne serait dit du haut des cieux. Les anges eux-mêmes avaient reçu l'ordre de mettre l'épée au fourreau et d'attendre l'éternelle puissance de Dieu. Car l'agonie était à peine commencée et 1000 horreurs devaient se produire encore avant qu'arrivât la fin, la somme dernière de la crucifixion. Et Percy, méditant et analysant l'éternelle leçon, comprenait que le chrétien, désormais, ne pouvait plus que veiller et attendre, jusqu'au jour où le corps mystique sortirait décidément du tombeau. Cet univers intérieur, dont un immense effort lui avait appris le chemin, était à présent tout imprégné d'angoisse. Il était amer comme le fiel, éclairé de cette pâle lueur que la grande souffrance physique fait surgir dans les yeux, et traversé d'une longue note continue qui ressemblait à un gémissement. « Seigneur, murmura-t-il, comment pourrais-je supporter cela jusqu'au bout ?» Mais, dès l'instant suivant, la terrible vision s'était effacée. Percy se passa la langue sur les lèvres pour les humecter et ouvrit ses yeux sur l'abside enténébrée devant lui. L'orgue maintenant se taisait, le chœur avait cessé et les lumières étaient éteintes. Les reflets du soleil couchant, eux aussi, avaient disparu. Et c'étaient de sombres visages glacés qui le considéraient du haut des murs et de la voûte. De nouveau, il se retrouva à la surface de la vie, et à peine déjà se rappelait-il ce qu'il venait d'entendre et de voir. Comme il s'avançait ensuite vers la chapelle du Saint-Sacrement, toujours très droit et le pas assuré, il vit une vieille femme qui paraissait l'observer attentivement. Il hésita un instant, se demandant si c'était une pénitente qui désirait se confesser. Et elle, voyant son hésitation, fit un pas vers lui. « Je vous demande pardon, monsieur » commença-t-elle. Son « monsieur » indiquait que ce n'était pas une catholique. Percy souleva sa barrette. « Puis-je faire quelque chose pour vous » demanda-t-il. « Je vous demande pardon, monsieur, mais est-ce que vous n'étiez pas à Brighton au moment de l'accident qui s'y est produit il y a 2 mois ?»«
En effet, j'étais là. »«
Ah, c'est bien ce que je pensais. Ainsi, c'est vous que ma belle-fille a vu. » Elle le dévisagea avec un mélange de doute et de curiosité, promenant sur lui ses petits yeux ridés. « Je vous demande pardon, monsieur, mais... »«
Eh bien, » demanda Percy, s'efforçant de ne laisser poindre aucune trace d'impatience dans le ton de sa voix.
« Est-ce vous qui êtes l'archevêque, monsieur ?»
Le prêtre sourit, montrant ses dents blanches.
« Non, madame, je ne suis qu'un pauvre prêtre.
C'est monseigneur Cholmodelet qui est archevêque. Moi, je suis le père Percy Franklin. »
La vieille femme ne dit rien, mais les yeux toujours fixés sur lui, fit un geste de salutation qui rappelait les révérences des femmes d'autrefois. Et Percy, pressant le pas, poursuivit son chemin jusqu'à la chapelle du Sacrement, où il avait coutume d'aller achever la série de ses dévotions.